Monsieur Truchon, si vous voulez bien, nous allons un petit peu revenir à notre entretien où nous avons dû couper court en raison du manque de temps. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes toujours dans la deuxième béatitude, celle des doux. Vous avez défini les termes de doux et de terre en héritage et nous en étions à parler des moyens à prendre pour devenir doux. Est-ce que vous pourriez nous en reparler un petit peu?
Oui, on avait brièvement parlé des fruits de l'esprit qui sont la douceur, la maîtrise de soi, la bonté, la magnanimité, le pardon, la patience, et le reste, et le reste, et le reste. On peut en mettre d'ici à demain. Pardon. Mais aussi, il faut parler des moyens. Et là, parler des moyens, c'est plus délicat. La Bible, comme toutes les grandes religions d'ailleurs, parle de prière, de jeûne et d'aumône. C'est-à-dire la prière qui nous permet de fonctionner au-delà de nos limites, le jeûne qui nous permet d'apprendre à aimer vraiment dans la gratuité, dans la maîtrise de soi, et l'aumône qui nous permet de fonctionner socialement pour guérir nos systèmes politiques et de toutes sortes, autrement dit, d'être capable de poser des actes gratuits pour l'autre. Un peu comme John Kennedy disait, bon, arrêtez de compter sur le gouvernement, mais comptez sur nous autres. Mais aussi, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on est capable de poser des actes sociaux gratuits. Et ce qui guérit toujours les systèmes, d'ailleurs, ce sont les bénévoles. Et s'il n'y en avait pas, ce serait la mort. Alors, aujourd'hui, les moyens, la prière, le jeûne et l'aumône, bien sûr, l'instruction, c'est-à-dire d'étudier quotidiennement la Bible, de s'acheter un bon livre de théologie par année, au moins, de choisir ces livres-là, en particulier, par exemple, Maurice Zundel, qui est comme un Einstein du spirituel pour le 21e siècle, aussi puissant que l'autre au niveau physique. Et justement, d'ailleurs, même Einstein disait que la religion sans la science est dangereuse et la science sans la religion est un monde incomplet. Aujourd'hui, nous parlons de la douceur, qui est un fruit de l'esprit, va sans dire, encore autant que la pauvreté, sinon plus, au moins qu'il en dérive. Mais aussi, cette béatitude-là nous rappelle immédiatement la béatitude qui suit dans le texte français, c'est-à-dire « Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Mais dans le texte grec, c'est le bienheureux ceux qui pleurent qui précède le bienheureux les doux.
Elle précède les doux.
Oui. Et c'est pas bête parce qu'il y a une logique encore autant, sinon plus forte, entre ceux qui pleurent et les doux. Autrement dit, pour devenir doux, il faut avoir expérimenté une guérison. Alors aujourd'hui, nous allons peut-être passer faire le passage des doux à ceux qui pleurent.
Oui, sans doute.
Et nous entrons dans le creux du mystère. C'est le temps de dire aujourd'hui qu'il est grand le mystère de notre foi. Parce que là, nous descendons presque au fond de nos enfers pour en construire des ciels. Alors, et la psychologie et la psychothérapie et la psychanalyse vont nous aider d'ailleurs à leur niveau. La psychologie, nous révélant nos fonctionnements adéquats et le moyen aussi de guérir, c'est-à-dire de réorienter. La psychanalyse aussi, nous permettant des régressions pour revivre des souffrances que nous avions refusé de vivre, ce qui avait entraîné en nous des déviations, des pertes d'identité et des perversions de nos instincts, mais surtout de l'agapé-thérapie, c'est-à-dire cette guérison par l'amour créateur et rédempteur du Christ que nous allons étudier spécialement, parce que au fond, cette béatitude-là de ceux qui pleurent, c'est la réponse de Dieu à nos malheurs, c'est-à-dire d'engendrer dans nous des ministères pour nous guérir réciproquement. Alors on pourrait dire que les blessures du Christ sont au fond nos blessures qu'on lui a fait, qu'on se fait les uns et les autres, et à commencer par soi-même aussi. Les blessures du Christ peuvent nous réveiller de nos propres blessures pour les découvrir et les soigner, et croire à son amour, et nous faire guérir et nous diviniser, mais tout cela en engendrant par le fait même en nous des ministères. Alors qu'on pense par exemple à Jean Lapointe, qui fonde des maisons de thérapie, c'est parce que lui-même en a eu besoin. Qu'on pense à Pélado, qui en fait aide beaucoup de gens parce que lui-même est sorti d'un problème. En fait, qu'on pense à beaucoup de personnes qui sont extrêmement utiles à la société, au fond, parce qu'ils ont suivi, ils ont vécu des thérapies extraordinaires, des thérapies en profondeur. Et quand on rencontre ces personnes-là, ça paraît tout de suite. Il y a une qualité de relation qui est immédiate.
Est-ce que je peux revenir un petit peu sur les trois éléments dont vous parlez, les moyens d'acquérir la douceur? Vous dites prière, jeûne et au monde, mais est-ce qu'ils sont particuliers, ces moyens-là, à la douceur ou bien s'ils s'appliquent à toutes les béatitudes en général?
Ils s'appliquent à la vie constante parce que plus on fait l'expérience de Dieu, plus Dieu peut développer en nous un ministère de prière, c'est-à-dire un ministère de compassion parce qu'en fait, plus on est heureux, plus on voudrait que tout le monde le soit, mais plus on découvre aussi que le monde ne l'est pas tellement des fois. Alors on communie à cette souffrance de telle sorte que la pitié, la miséricorde, c'est-à-dire la souffrance avec autrui, devient un préliminaire, un ministère d'accueillir l'autre dans sa condition à lui et de ne pas le juger et de l'accepter inconditionnellement. Parce que justement, nous l'avons vécu déjà, cette expérience.
Monsieur Truchon, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu quel est ce rapport entre ce que vous appelez les lois de l'Esprit-Saint et les moyens d'acquérir la douceur au sens de la béatitude.
Oui, à ce moment-ci, nous redécouvrons le sens profond du mot « loi », qui veut dire « fonctionnement d'une manière d'être », comme le poisson dans l'eau, c'est une loi qui soit dans l'eau, sur l'asphalte, il ne va pas bien. C'est certain que découvrant nos vraies façons de fonctionner, d'abord, nous ne sommes plus soumis à la loi puisque nous l'observons, Et à ce moment-là, nous tombons dans les lois de l'esprit, c'est-à-dire les lois véritables de notre développement, de notre croissance, de notre naissance et de notre renaissance. Autrement dit, nos guérisons puis notre divinisation.
Mais si vous permettez, les lois de l'esprit, est-ce qu'elles sont écrites? Comment est-ce qu'on les connaît?
Les lois de l'esprit, en fait, d'abord, c'est toutes les lois de la pureté qu'on a dans l'Ancien Testament, qu'on a un peu oubliées dans le Nouveau. Ce sont des lois de nos relations, c'est-à-dire que quand nous entrons, nous faisons une expérience d'amour avec quelqu'un, nous commençons à inventer des mots doux, nous inventons des signaux, des façons de se dire, nous inventons des façons de se rencontrer. Finalement, ça vient qu'on invente des manières de se parler et de signifier qui sont beaucoup plus du côté de l'âme que du corps et qui deviennent très secrètes et très exclusives et très profondes.
Alors, on les apprend avec l'expérience.
On les apprend avec l'expérience parce qu'au fond, ces lois-là sont en nous autres. Seulement que l'amour les réveille et les rend créatrices de toutes sortes de comportements différents et inédits. Et les lois de l'esprit qui sont d'abord l'attention à l'autre. Quand on aime quelqu'un, on le regarde tout le temps, si tu veux, parce que la première loi de l'amour, c'est d'admirer l'autre. Alors l'autre, nous, on le regarde tout le temps. Alors ça devient une loi de l'esprit que de regarder l'être aimé. Une deuxième loi de l'esprit, c'est de l'écouter, c'est d'essayer de discerner ce qui lui plairait. Une autre, c'est d'essayer de l'aider s'il y a une difficulté. Et le reste, on pourrait en nommer beaucoup des lois de l'esprit.
Monsieur Truchon, nous parlons donc des moyens d'acquérir la douceur au sens de la béatitude par l'entremise des lois de l'Esprit-Saint. Est-ce que vous pourriez nous en définir quelques-unes?
Oui, mais je suis toujours mal à l'aise quand je parle de lois pour acquérir, parce qu'on retombe dans l'Ancien Testament, puis là, au monde de la justice, puis de la rémunération, ce qu'on appelle en latin la théologie du dos d'or, si je te donne ça, tu me donnes ça. Dans le Nouveau Testament, ce sont plutôt des lois pour que l'Esprit produise en nous ses fruits. Alors, c'est plutôt l'Esprit tout le temps qui produit en nous la vie spirituelle. Mais si
c'est
on...
nous qui nous laissons envahir par
nous
lui.
Nous laissons envahir par
ce
lui.
Ce n'est pas des moyens que nous prenons.
Non, c'est ça. Et nous collaborons à ce moment-là à ces manières d'agir qui deviennent pour nous des lois, c'est-à-dire des attentes extraordinaires qui sont possibles grâce à lui.
Alors, il nous reste à développer une ouverture.
Oui, c'est plutôt une question d'ouverture puis de collaboration, de co-création, co-libération, de co-vie ensemble, c'est-à-dire d'une corporation. On devient comme... C'est le voyage de noces qui s'installe, qui veut s'installer. Alors, ces lois-là, la première, d'abord, c'est l'attention à l'être aimé. Au fond, toutes ces lois-là favorisent une présence de l'un à l'autre, par l'offrande de soi. Au fond, ce qui nous rend présent à l'autre, c'est les présents qu'on fait à lui.
Ce que vous nous dites, c'est que tout ça, c'est une grande histoire d'amour.
Ah, tout le temps. Et ce qui nous rend présent à lui, c'est au fond l'offrande de soi. Dieu s'offre à nous en premier, c'est lui qui aime le premier. Il s'offre à nous, il se donne à nous, il quémande notre amour, il attend notre amour, il s'ennuie au fond de nous autres. Alors, découvrir cette attente de Dieu en nous, c'est là notre avenir. Et à ce moment-là, on est comme séduit de plus en plus par l'être aimé et on devient attentif. Au fond, l'attention, au fond, l'amour nous rend capable de capter notre intelligence puis de la tourner vers l'être aimé.
Autrement dit, passer du rationnel à quelque chose de moins, qu'on peut moins identifier. Là. On ne peut pas mettre le doigt dessus de la même façon.
C'est plus du domaine du rationnel.
C'est un autre ordre.
C'est du domaine de l'intelligence qui est la puissance de pénétrer l'être aimé et pour le connaître. Et plus on le connaît, plus on l'aime. Plus on l'aime, plus on peut le connaître, de telle sorte que l'amour devient le chemin de la connaissance de l'autre. Et tout ça, ça se fait en lui faisant des présents, en essayant de lui faire plaisir, en essayant de deviner ce qui lui plaît et de faire ce qui lui plaît. Et à ce moment-là, s'installe un nouveau rapport de vie qui est complètement différent. Mais pour ça, il faut des guérisons et ça se fait à travers des guérisons.
Je pense, M. Truchon, que sans vouloir dénigrer la deuxième béatitude, vous avez un petit peu hâte de passer à la troisième. Je pense qu'elle est drôlement importante dans l'ensemble du message.
Oui, parce que la troisième va encore d'abord nous faire connaître plus la première, la deuxième. Et en fait, dans la troisième, nous en allons tranquillement vers la sainteté de la vie, c'est-à-dire le bonheur de vivre, la béatitude de s'aimer et d'être aimé. Et finalement, la miséricorde qui sera quelque chose de fantastique.
Alors donc, juste avant de terminer notre survol de la deuxième béatitude, si vous voulez bien, je me rends compte qu'il y aura encore matière à meubler plusieurs émissions. Mais comme il faut bien avancer, vous pourriez peut-être nous tirer une petite conclusion là, qui résumerait l'essentiel du message, la deuxième béatitude.
Oui, finir l'étude d'une béatitude, c'est quasiment se préparer à la reprendre d'une façon plus profonde, parce que c'est un mystère insondable qui nous prépare toujours à une meilleure compréhension par la foi et l'expérience qui est suscitée par cette foi. Alors, la béatitude des doux, on l'a vu, c'est la béatitude qui nous rend capable d'être thérapeute d'autrui, c'est-à-dire d'accueillir l'autre inconditionnellement pour qu'il se retrouve en nous et que nous puissions le retrouver aussi en nous-mêmes, de telle sorte que ça permet à l'autre la libération, la guérison de ses blessures profondes qui, au fond, ne parvenaient pas à atteindre par lui-même. Mais tout ça est possible grâce à une attention inconditionnelle à lui, à une acceptation inconditionnelle à lui, à pas vouloir le changer. Et c'est en l'acceptant tel qu'il est que, justement, il va prendre une distance face à ses limites. Et là, s'installe une confiance qui permet des aveux. Et ces aveux-là sont d'ordre psychologique, psychanalytique. Mais finalement, Dieu peut agir encore plus là-dedans si on le nomme et si on en fait l'expérience directement. Parce qu'il y a quatre manières, encore une fois, d'atteindre Dieu. La première, par nos désirs, mais c'est une manière dangereuse parce qu'il faut convertir nos désirs, autrement dit, les faire aller plus loin que leur premier mandat, pourrait-on dire. Un deuxième moyen, c'est par la réflexion, la philosophie, ce qui est bon. Le deuxième moyen, je dis, c'est par les émotions, la psychologie. On peut déjà, par nos émotions, atteindre Dieu et se laisser atteindre par lui, bien sûr. Et la troisième, c'est par la philosophie, le raisonnement, la réflexion. Mais finalement, ensuite, l'enseignement théologique sur Dieu lui-même. Mais finalement, ce qui nous satisfait seulement, c'est l'expérience de Dieu lui-même.
Autrement dit, ce n'est pas nécessaire d'avoir une compréhension rationnelle, une connaissance absolument pédagogique là, du message, qu'on peut l'avoir saisi bien autrement, qu'il y a d'autres façons.
C'est que ces méthodes ou ces chemins ou ces manières sont toutes complémentaires. Mais finalement, on découvre que c'est Dieu lui-même qui nous instruit lui-même dans notre propre expérience. Et le texte qui définit bien ça, c'est Isaïe 54 à 7, « Notre maître intérieur est en nous-mêmes ». Il veut nous instruire, et dès qu'on s'ouvre à lui, tout nous devient enseignement, tout ce qui nous arrive.
Autrement dit, Dieu nous connaît si bien que c'est lui qui connaît la façon de nous transmettre le message.
Oui, Dieu est notre architecte. Il est non seulement notre professeur, il est notre architecte, c'est-à-dire celui qui nous bâtit. C'est l'Esprit-Saint qui a bâti la création. C'est l'Esprit-Saint, il trônait sur les eaux. C'est lui qui a bâti les prophètes. Justement, parce que nous allons commencer l'école du prophétisme avec Bienheureux ceux qui pleurent. Comment on devient prophète et comment on devient thérapeute, on l'a vu un peu, mais on le verra encore plus. C'est Dieu qui a bâti Jésus-Christ, c'est Dieu qui a bâti d'abord la Vierge, c'est l'Esprit-Saint, je veux dire, qui a bâti la Vierge, c'est l'Esprit-Saint qui a bâti Jésus-Christ, c'est l'Esprit-Saint qui bâtit l'Église. Et l'Église, qu'est-ce que c'est? C'est le mystère infini que chacun a en lui et que nous avons à développer et à partager. Voilà ce qu'est l'Église.
D'accord. Alors ça, je pense bien que ça résume pas mal le message de la béatitude des doux. Et nous allons commencer tout de suite, après la pause, notre fameuse troisième béatitude. Monsieur Truchon, nous voici donc rendus à étudier ensemble la troisième béatitude. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Donc, la béatitude qu'on appelle communément celle des affligés. On reviendra tantôt sur la définition des termes, mais pour tout de suite, j'aimerais aborder la question de l'universalité de cette béatitude. Je pense que, contrairement à d'autres, la béatitude des affligés, ça s'adresse systématiquement à tous, parce que contrairement à l'absence de justice ou de biens matériels, par exemple, c'est tout le monde qui éventuellement fait l'expérience de l'affliction dans sa vie. Est-ce que vous êtes d'accord?
Oui, mais les autres aussi sont pour chacun. Alors, ce n'est pas un monde réservé que les béatitudes, c'est le plan de Dieu pour chaque homme dont nous devenons des témoins pour d'autres. Le peuple juif, d'ailleurs, est le témoin de l'action de Dieu en lui-même, Exode 19, 4 à 7, pour être le témoin de l'action de Dieu dans le monde entier. Et l'Église continue cette mission par le Christ et ce qu'on appelle l'Église, c'est-à-dire les assemblées de chrétiens. Mais c'est, Dieu agit dans chaque homme.
Ce que je voulais dire, c'est qu'elle n'est pas un petit peu plus là, viscérale là, pour l'humain, que la souffrance, ça nous touche pas mal plus, avec plus de force.
C'est qu'elle nous atteint plus profondément. C'est là justement que s'engendrent les ministères. Par exemple, si on voulait dire un peu ce qu'est cette béatitude, c'est quoi cette béatitude-là, en partant, là, pour bien s'aligner, oui. Ben, on pourrait dire une phrase ici. C'est que nos douleurs et nos souffrances les plus profondes sont les lieux où Dieu et où s'engendre en nous nos plus grandes puissances. Autrement dit, nos plus grandes blessures, au fond de nos plus grandes blessures, vont pousser nos ailes les plus puissantes. Autrement dit, si on voulait connaître la capacité la plus grande de quelqu'un, ça serait qu'il soit capable de nous dire...
De mesurer l'intensité de la souffrance.
De mesurer l'endroit où il a été le plus blessé. Mm-hmm. Et c'est là que s'est engendré à lui sa plus grande puissance d'être humain et d'aider les autres à de le devenir. Parce que là, ceux qui pleurent, pourquoi on pleure? Parce qu'il y a une loi qui est violée, parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais quelle est l'origine du mal? On verra ça, bien sûr. On reviendra là-dessus, bien sûr.
Oui, évidemment.
Mais c'est évident, c'est toujours, au fond, une fermeture, une suffisance qui, nous faisant stupidement plein de nous-mêmes, bientôt nous ferons de nous un être de haine, détestant. Alors déteste la suffisance, car si tu te livres à elle, bientôt elle fera de toi le meurtrier de tes frères, sans même que tu l'aies voulu, le meurtrier de leur vie ou de leur cœur. Et puis elle te donnera, c'est-à-dire elle nous rendra malheureux. Alors nous entrons ici dans notre histoire profonde où, en fait, nous expérimentons des perversions, du mal, du vide, des sortes de fermetures. Et il y a moyen d'être guéri de ça. Il y a des moyens d'être guéri de ça. Et non seulement il y a des moyens de guérir de ça, mais tout ce qui nous arrive essaie de nous réveiller pour nous guérir de ça. Dieu lui-même d'abord, ensuite les autres humains qui nous détestent ou qui nous disent des vérités parce que la relation est coupée, parce que ça va mal. Alors, il y en a pour, dans notre vie personnelle, il y en a pour les couples, il y en a pour les familles, il y en a pour les nations, puis il y en a pour le monde entier là-dedans. Nous reverrons ça sous cet aspect-là, mais nous aimerions d'abord pénétrer en profondeur sur la dynamique propre de cette béatitude.
D'accord. J'aimerais revenir, si vous le permettez, sur la formulation exacte de la béatitude. Pourquoi est-ce qu'on parle de gens qui pleurent plutôt que des affligés? Est-ce qu'il n'y a pas une différence importante quand même entre pleurer et l'affliction?
Oui, oui. Il ne s'agit pas d'un rhume de cerveau, là. Il ne s'agit pas d'être atteint par une petite maladie, là, qu'on continue à fonctionner. Il s'agit d'un bouleversement profond, c'est-à-dire la boule dans le cœur, la boule dans le ventre. C'est-à-dire que la personne, là, elle est secouée par une émotion, elle est secouée par un événement, elle est comme brisée, puis on se demande si elle va s'en sortir. Autrement dit, elle est atteinte profondément. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir là-dedans, et bien sûr, c'est que Dieu lui-même est atteint. Et c'est comme ça qu'on va devenir guéri, c'est qu'en découvrant que nos êtres aimés sont atteints. Alors là, c'est toute une affaire que nous allons approfondir tranquillement, pas vite, doucement.
Oui, parce que je sens qu'on a beaucoup de matière ici.
Oui.
Vous écrivez que cette béatitude se vit dans la noirceur, parce que c'est par l'échec qu'on fait l'expérience du mal et de la souffrance. Toutes sortes d'échecs, social, financier, familial, émotif. Vous parlez donc d'un combat qui prend la dimension de toute une vie. Mais tout le monde n'a pas cette force, M. Trujon. Tout le monde n'est pas humainement capable de supporter indéfiniment des échecs. Alors, où est-ce que la lumière apparaît? Mais surtout, quand viendra-t-elle la fameuse consolation promise?
Oui. D'abord, la béatitude ne se vit pas dans la noirceur, mais il faut passer par la noirceur. Alors, quand est-ce qu'elle vient? Elle vient progressivement. Mais à un moment donné, elle nous atteint tellement que le mal ne peut plus nous atteindre profondément. Alors, au fond, on revient, est-ce qu'il y a du mal qui nous atteint, qui est plus fort que nous autres? Oui et non, c'est que les croix sont mesurées quand même, ils nous arrivent pour nous guérir. Alors, tout ce qui nous arrive est pour nous guérir, il ne faut jamais l'oublier. L'échec est une grâce. Tout échec est une grâce parce que ça nous dit qu'il y a moyen de faire autrement puisque de même ça ne marche pas.
Mais vous, vous en êtes convaincu, mais souvent oui. Pour le bonhomme ordinaire, je vous garantis que ce n'est pas toujours évident.
C'est pour l'homme tout court, parce qu'il n'y a pas d'homme extraordinaire. C'est l'homme ici qui est merveilleux, n'importe quel homme. Alors, chaque homme est un dessein de Dieu merveilleux et tout le monde a la force de devenir heureux, c'est-à-dire par Dieu, c'est-à-dire par la nature, par Dieu qui est en lui. C'est justement que les béatitudes sont l'œuvre de l'Esprit-Saint.
Ce que vous dites, c'est que tout le monde possède les ressources voulues pour passer à travers.
Tellement que si on avait une série de croix à choisir, vous savez, les comptes là-dessus, là, choisir sa croix, on retrouve finalement la nôtre. C'est que notre croix, au fond, est un pont pour se guérir et réatteindre l'autre, réatteindre Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier que le bonheur consiste à être en amour avec Dieu, nous-mêmes et l'autre. Un triangle. Quand ça va mal, le triangle est brisé.
Moi, j'ai une petite question pour vous. Une des raisons pour lesquelles je vous demandais quand viendra la consolation promise, c'est que vous écrivez au sujet des béatitudes de Matthieu que le bonheur est un don personnel fait à chacun s'il le veut et que cette offrande, elle est immédiate. Vous affirmez qu'on est libre d'accepter le bonheur, mais si je comprends bien, si on accepte l'offre tout de suite, il faut quand même s'attendre à bénéficier des avantages seulement plus tard, un peu comme un investissement à long terme.
C'est-à-dire immédiat. Bon, vous donner un exemple. Mettons, pour prendre un exemple, parce que c'est juste un exemple, parce que tout le monde est un peu en prison. Mettons quelqu'un qui est en prison. Bon, il est en prison. Il est rentré là de force, c'est sûr. Il y a des grilles, il y a des portes, il ne peut pas sortir. On l'a rentré de force, il n'est pas rentré de lui-même. S'il était rentré de lui-même, il serait déjà différent, il serait quasiment comme un couvent. Parce qu'encore une fois, dans le couvent, il y a des barreaux, mais les personnes sont rentrées librement. Mais là, il y a des barreaux dans le couvent pour pas que les personnes rentrent. Tandis qu'en prison, c'est pour pas qu'ils sortent. Et là, je dis la phrase qui répond à la question. Dès qu'un homme décide de se prendre en main, de vouloir s'améliorer, immédiatement, une certaine paix commence en lui.
D'accord. Je pense que ça nous fait quand même une petite note positive pour terminer aujourd'hui. Et je vous remercie beaucoup, M. Truchon. On se retrouve la semaine prochaine.